patrimoine templier et hospitalier, en vallée de la Vézère, le podcast.
Ils sont habillés de blanc ou de noir. Ils portent la croix rouge ou blanche sur le cœur. Cavaliers casqués, boucliers et épées en main, ils défendent la veuve et l'orphelin. Mais vous ne les voyez pas. Vous ne les entendez pas et pourtant, ils sont là, le long de la Vézère, depuis 800 ans. Ils, ce sont les chevaliers templiers et hospitaliers. Bienvenue dans le podcast du patrimoine templier et hospitalier en vallée de la Vézère. Avec le soutien des troubadours des offices de tourisme de Brive Agglomération, Vézère-Périgord-Noir, terre de Corrèze et de la Haute-Corrèze. Ce patrimoine est aujourd'hui mis en valeur grâce à la création d'un réseau de 15 sites, publics ou privés, en lien historique avec ces ordres religieux militaires du Moyen-Âge. Leurs vestiges, symboles d'une richesse patrimoniale à redécouvrir, parsèment nos territoires. Mais qui sont ces chevaliers? Nés loin d'ici, leur présence résonne pourtant à nos oreilles à travers des lieux dits constellant nos campagnes. Quelles traces ont-ils laissées? Comment sont-ils venus jusqu'ici? Ces mythiques chevaliers sont implantés sur notre territoire depuis le début du XIIe siècle. Ils ont laissé des empreintes de leur passage par les multiples constructions nécessaires à leur vie spirituelle et matérielle. Voici le récit de l'arrivée sur nos terres. Des chevaliers de Jérusalem qui nous ont transmis un patrimoine presque oublié aujourd'hui. Bon gré mal gré, cette histoire parvient à nos oreilles grâce à d'irréductibles passionnés qui travaillent à la valorisation de ce patrimoine régional méconnu. Entre documents d'époque, ruines, fouilles archéologiques et bâtiments rénovés, redécouvrons ce surprenant témoignage du passé, surgi du monde médiéval, entre contes et légendes. Nous allons revenir sur les causes de la méconnaissance de ce patrimoine, mais avant tout, un peu d'histoire.
Qui étaient les Templiers? En 1099, la prise de Jérusalem libère les lieux chrétiens de la ville sainte et entraîne donc un nouvel afflux d'occidentaux vers l'Orient. Au fil du temps, devant la montée de l'insécurité sur les longs chemins qui mènent jusqu'aux nouveaux États latins, des chevaliers se proposent pour protéger les convois. Suite aux guerres incessantes sur leur terre natale, ces chevaliers mal dégrossis, rugueux, souvent sans foi ni loi, enfin, sauf celle du plus fort, mènent leur quotidien au fil de l'épée. Ils vivent sans trop se poser de questions sur le sens de leur vie, mais les horreurs de la libération de Jérusalem ont amené certains d'entre eux à réfléchir à leur condition d'être humain, puis de chevalier. Il leur faut trouver une quête spirituelle, une cause plus noble que leurs intérêts personnels, se donner aux autres, pour progresser intérieurement. L'idée germa de protéger ces pèlerins en partance pour Jérusalem, tout en suivant des règles strictes de comportement. Et à l'époque, les règles strictes, ce sont celles des ordres religieux. Nous assistons donc à la naissance de l'alliance entre chevaliers et moines. Aidés par les cisterciens et surtout Bernard de Clairvaux, ces premiers chevaliers vont se fédérer dans un nouvel ordre qui prendra donc le nom du lieu de leur première implantation, l'ancien mont du Temple de Jérusalem, site du mythique Temple de Salomon de l'Ancien Testament, abritant, entre autres, l'Arche d'Alliance et les Tables de la Loi. En tant que chevaliers, protecteurs des lieux saints, ils deviennent donc l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple du roi Salomon, soit les chevaliers du Temple de Salomon, puis chevalier du temple, puis templier dans sa version moderne et raccourcie. Ils allient donc le combat matériel, guerrier et le combat spirituel, leur foi. Les templiers prient jusqu'à 9 fois par jour. Leur démarche les amène à se transformer intérieurement en défendant matériellement la veuve et l'orphelin, ce qui deviendra leur marque de fabrique. Capés de la couleur blanche, symbole de pureté et d'engagement, ils sont parfois surnommés les blancs manteaux. Leur influence est telle qu'ils ont laissé des traces dans la toponymie de toutes les régions de France. Les lieux dits le temple, l'hôpital, commanderie sont très fréquents dans nos campagnes, comme à Alassac, Donznac ou Ayen. Sur leurs terres, ils prélèvent dîmes, banalités et autres impôts. Ils prennent en gage l'argent des pèlerins voyageant vers la Terre Sainte en leur rendant à leur arrivée contre un reçu et moyennant commission. Vu de l'extérieur, l'ordre est riche. En réalité, il produit effectivement beaucoup et gagne de l'argent, mais ils dépensent énormément. Leur maintien en Orient coûte cher, très cher. Pendant 200 ans, ils défendent tant bien que mal Jérusalem pour finalement, faute de renforts suffisants, perdre la dernière ville de Terre Sainte en 1297. À partir de là, leur utilité est contestée, notamment par l'incompréhension de leurs contemporains envers leurs objectifs réels. Ils veulent se replier pour mieux repartir, mais avec l'aide de forces plus larges et diversifiées, mais sans obtenir l'unanimité. De plus, les privilèges accordés par les papes successifs ont certainement suscité des jalousies à ce moment-là, terrain idéal pour une critique généralisée de l'ordre. Et à partir du moment où les États latins d'Orient n'existent plus, le compte à rebours de leur fin est déclenché. Déclenché par un roi de France aux abois financièrement, qui va s'acharner à dissoudre l'ordre du Temple avec un pape en position de faiblesse. À la signature de la dissolution de l'ordre en 1312, c'est l'ordre des Hospitaliers qui va hériter de leurs biens. Qui étaient les Hospitaliers ? L'ordre est créé en 1113 à Jérusalem par des moines qui transforment leur maison en lieu de repos et de soins pour les pèlerins. Ils assurent donc l'hospitalité, d'où leur surnom. Dans un territoire parfois hostile, ils en viennent à s'armer et deviennent eux aussi militaires. Ils ne dépendent que du pape et élisent leur grand maître. Ayant comme patron Saint Jean le Baptiste, leur véritable nom est celui des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. Comme les Templiers, ils s'assurent de bases arrières et de revenus en Europe avec un réseau de commanderies. Ils perdurent jusqu'à la Révolution où leurs biens sont saisis. L'ordre décline au XIXe siècle et renaît de ses cendres au XXe siècle sous forme d'une association humanitaire bien connue, l'Ordre de Malte, qui revendique l'historicité des prestigieux chevaliers de Saint-Jean. Leur insigne est la croix à 8 pointes, blanche, sur fond rouge ou noir. Malgré une vie bien plus longue, les hospitaliers souffrent d'une douce ignorance tellement le mot « templier » résonne aux oreilles du grand public. Ces derniers jouissent d'une aura historique teintée de mystère. Tout d'abord, ils meurent au combat pour la protection des pèlerins et sont les premiers à se donner corps et âme à la chrétienté, leur assurant un prestige enfoui dans l'inconscient collectif. Ensuite, leur chute, brutale et soudaine, a marqué les esprits. Le vendredi 13 octobre 1307, date funeste, les Templiers sont arrêtés partout dans le royaume de France, dans une opération de police unique en son genre. La stupeur de l'événement est suffisamment marquante pour désigner ce jour comme maudit, le vendredi 13. Arrêtés et questionnés, les peines de leur détention abusive restent dans les mémoires. On se souvient de l'horreur de la question qui signifie « avouer par tous les moyens possibles », art funeste où les inquisiteurs, devenus maîtres en la matière, ont inscrit leurs méfaits en lettres de sang les pages d'une histoire maudite. De plus, le résultat de la question a engendré moult aveux farfelus, les associant à des pratiques étranges, laissant croire à un sens caché de leur rituel. Cette série de fausses déclarations confère aux Templiers une dimension ésotérique, agitant aujourd'hui des amateurs en quête de révélations sensationnelles. Les échanges numéraires entre les commanderies d'Occident et l'Orient sont importants. On se doute de la main basse que peuvent réaliser les hommes du roi le jour fatidique. Mais l'histoire ne relate pas d'importantes sommes saisies, laissant la porte ouverte à un mythique trésor
qui aurait échappé à l'action royale grâce à certains frères avertis juste avant l'arrestation. Depuis, certains chercheurs n'ont de cesse d'enflammer les imaginations à travers des récits fantastiques à la recherche du trésor des Templiers. Faute de trouvailles en espèces sonnantes et trébuchantes et la nature ayant horreur du vide, les théories les plus exotiques sont sorties de l'esprit d'auteur à l'imagination sans limite. L'une des plus fantastiques laisse à penser qu'ils sont dépositaires du Saint Graal, la coupe du Christ. Mais avec Chrétien de Troyes, auteur du best-seller médiéval Perceval ou le Comte du Graal, les contours de cet objet sont suffisamment flous pour le teinter d'une description bien plus mystérieuse qu'une simple coupe. Là encore, les interprétations sont larges et permettent de fantasmer sur leur supposée découverte sous le monde du Temple de Jérusalem. Nous pourrions aussi évoquer l'Arche d'Alliance, le chandelier à sept branches ou le Saint-Suaire de Turin, alimentant la légende de possessions extraordinaires. Le roi de France, furieux de ne pas obtenir par la force ses richesses tant convoitées, va user de la violence une dernière fois pour définitivement sceller la fin des Templiers. Jacques de Molay, le dernier grand maître, est injustement exécuté en 1314, directement par ordre du roi. Mais avant de mourir, il aurait lancé une malédiction contre le pape et la descendance royale. Non seulement les deux vont mourir dans l'année, mais ce sera la fin des Capétiens, conférant au dernier grand maître de mystérieux pouvoirs occultes. Cette légende inspira Maurice Druon en 1955 dans son œuvre « Les rois maudits ». Enfin, la difficile acceptation de leur subite disparition alimente encore le mythe d'une survivance cachée de l'ordre à travers de mystérieuses sociétés secrètes dont une branche émergée serait la franc-maçonnerie moderne. Toutes ces histoires entourent l'ordre d'une aura brumeuse, fascinante et insaisissable, rendant leur histoire éternelle. Dès qu'un mystère historique n'est pas résolu, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Comme le disait Umberto Eco, c'est toujours la faute des Templiers, laissant comprendre par cette boutade qu'à défaut de preuves, il est facile de tout coller sur le dos de ces moines soldats grâce à des théories invérifiables alimentant la légende indéfiniment. Du pendule de Foucault au Da Vinci Code, en passant par le trésor de Rennes le Château, les Templiers ne sont jamais bien loin. Les commanderies où ils vécurent sont quelque part dépositaires de la vie légendaire de ces chevaliers, et si les vieilles pierres pouvaient parler, elles seraient bien plus protégées qu'elles ne le sont aujourd'hui, rendant ces lettres de noblesse à toutes les actions de sauvegarde de ce patrimoine.
Mais qu'est-ce qu'une commanderie ? Tout le monde connaît les abbayes. Les commanderies ont un fonctionnement similaire, avec une vocation encore plus agricole. Sortes de fermes fortifiées, elles sont des centres de commandement, d'entraînement et de formation des novices. C'est sur la base de dons que les deux ordres augmentent leur patrimoine foncier, leur permettant de tirer des revenus de ces lieux transformés en exploitation agricole efficace.
Donner, c'est assurer le salut de son âme. Certains donnent tout, juste avant leur trépas en échange d'une tombe à proximité d'une église des moines soldats. Le prestige de ces chevaliers donnant leur vie en Orient assure à l'ordre un véritable afflux de dons. De plus, chaque noble qui entre à leur service consent à des donations territoriales ou financières. Ainsi, les commanderies sont vite devenues de vastes domaines très performants, à l'organisation rigoureuse et assurant aux combattants d'Orient un soutien indispensable. Ces gains sont transférés sous forme matérielle de vivres, d'armes, de chevaux et sous forme numéraire.
Leur organisation spatiale, sous forme de province, est homogène avec un principe simple, le réseau. Implantées près des voies navigables ou grandes routes, elles ont un accès facilité aux circuits commerciaux.
En 200 ans d'existence, ils ont couvert l'Europe d'un manteau de commanderies. Pour la terre de France, l'estimation de leur nombre frôle les 350. Elles sont au nombre de 6 le long de la Vézère, accompagnées d'une vingtaine de dépendances, dont certaines sont encore bien visibles aujourd'hui. Les installations s'organisent autour de bâtiments principaux, chapelles, dortoirs et écuries. Elles sont complétées par des granges, salles capitulaires et parfois logis d'un commandeur. Elles portent alors le titre de commanderie, où les chevaliers, clercs et sergents se côtoient. C'est dans ce cadre que les frères s'acquittent de leur devoir religieux, leur devoir de besogne et leur devoir de combattant. Il faut donc rappeler l'engagement aux trois serments de pauvreté, chasteté et d'obéissance.
Arrêtons-nous un instant sur ces vocations, reflet d'un temps révolu.
Tout d'abord, leur vœu de pauvreté signifie qu'ils ne peuvent en aucun cas s'enrichir pour eux-mêmes. Ils ne possèdent rien, tout appartient à l'ordre. S'ils le quittent, fait très rare, ils partent uniquement avec un habit et un repas d'avance. À leur mort, ils sont enterrés d'un simple linceul, leurs armes sont remises à la commanderie pour réemploi. Le vœu de chasteté évite des liens amoureux qui pourraient les détourner de leur mission première, le combat. On a moins peur de mourir quand on ne possède rien de matériel et sans lien affectif qui vous retienne ici-bas, entre femme à chérir et enfant à élever. Cette coupure affective peut paraître dure, mais leur engagement au combat, salué par leurs ennemis, reconnaissant leur courage, est à ce prix.
Le vœu d'obéissance assure à l'ordre une parfaite cohésion, surtout en période de guerre, où souvent face à un ennemi supérieur en nombre, le respect des consignes peut sauver des vies. L'application stricte des techniques militaires est garante de succès sur le terrain, ce qui fera d'eux des soldats reconnus unanimement pour leur rigueur et le maintien de leur ligne de défense. La règle de l'ordre leur interdit d'ailleurs de fuir le combat à moins que l'ennemi soit trois fois supérieur en nombre. C'est grâce à Richard Cœur de Lion, d'ailleurs bien connu dans notre région, que l'on aura les plus beaux témoignages de leur courage. Pendant la troisième croisade, le roi Richard plaça les Templiers à l'avant, assurant les premiers contacts avec l'ennemi sans perte d'engagement et plaçant les Hospitaliers à l'arrière, coupant court aux tentatives de harcèlement. Les soldats du centre, issus d'une troupe de volontaires, parfois mercenaires, sont moins enclins à tenir leur ligne face au danger, s'éparpillant vite face aux charges mamelouks, un désastre pour les colonnes en mouvement.
Mais revenons aux commanderies qui avaient aussi le devoir d'accueillir les pèlerins, y associant souvent des soins, servant de vitrine populaire à leurs actions. Le réseau, dense, en Europe, assure sécurité et confort minimum aux pénitents de passage. Aujourd'hui, ce qu'il reste des commanderies nous laisse apercevoir leur fonctionnement. Rares sont celles qui possèdent encore leurs murs d'enceinte, mais on retrouve à minima les chapelles, les granges ou les logis. Parfois endommagées, elles sont régulièrement modifiées ou reconstruites. Ce sont les chapelles ou églises, souvent épargnées, qui sont les vestiges les plus fidèles. Elles sont souvent très sobres, dépouillées à l'image de leur volonté de simplicité et de service. Elles sont parfois devenues paroissiales, comme à Courté, Bellechassagne ou Soudaine-la-Vinadière. Elles ont parfois disparu, comme à Varès, même si la chapelle d'une de leurs dépendances, à 3 km de là, est toujours visible. En 1789, les commanderies basculent dans un patrimoine privé, souvent agricole, ce qui sauvera les restes grâce à l'utilité de leurs installations. Des chevaliers ont aussi marqué l'histoire locale et leurs noms résonnent à nos oreilles, sensibles aux grandes familles et châteaux forts célèbres de nos contrées. Franco de Bord, originaire de Bord-les-Orgues, commandeur à maintes reprises de plusieurs dépendances dans le sud de la France, s'illustre comme commandeur de l'Aquitaine et de la Provence. André de Ventadour, chevalier limousin, est initié en 1303 en la chapelle de Bellechassagne, ainsi que Gérard de Rocamadour, reçu à 14 ans en 1285. Humbert de Comborn, qui arpenta, jeune, les gorges de la Vézère, est aussi un chevalier de l'ordre, tout comme le chevalier Terrasson, un peu plus en aval sur cette même rivière. Le chevalier de Vassignac est issu du château du même nom, à Collonges-la-Rouge. Enfin, trois hommes de notre région eurent pour charge la fonction suprême de leur ordre. Eudes de Saint-Amand est issu du petit village corrézien de Saint-Chamand, près d'Argentat. Il est le 8e grand maître des Templiers. Il a marqué l'histoire par sa fidélité à ses valeurs. Aux mains de ses ennemis qui lui proposèrent une libération en échange d'autres prisonniers, il leur répondit qu'un Templier n'avait que son poignard à offrir et qu'on lui avait déjà pris. Il mourra en captivité. Armand du Périgord était le 16e grand maître des Templiers. C'était le fils de Raymond de Turenne.
Pierre d'Aubusson est le 40e grand maître de l'ordre de Saint-Jean en 1444. Sa famille possédait le château de Castelnauvel. Il est célèbre pour avoir tenu le siège de Rhodes en 1480 devant 50 000 Ottomans.
Aujourd'hui, les propriétaires de ces lieux sont très différents les uns des autres. Entre patrimoine privé ou public, classé ou non, les différentes initiatives de sauvegarde de ce patrimoine nous permettent parfois une réappropriation historique et dans certains cas une visite des lieux en période estivale ou grâce aux journées européennes du patrimoine. Leur densité sur notre territoire offre l'opportunité de redécouvrir l'héritage de ces hommes hors du commun. À Condat-sur-Vézère, la commanderie revit sous les auspices de la commune qui vient de racheter les biens pour les sauvegarder et deviendra, dans un futur proche, un espace public multi-activité. L'opération Château en fête, côté Dordogne et d'autres événements, offre à tous ceux qui veulent en savoir plus l'opportunité de s'imprégner de cette histoire. Le programme, diversifié, est à retrouver sur les sites de vos offices de tourisme, rubrique patrimoine templier et hospitalier, en vallée de la Vézère. Pour chaque site, un podcast vous accompagne, présentant l'historique, l'architecture et les légendes de ces bâtiments multicentenaires. En allant sur place, et pour leur bonne découverte, nous vous invitons à vous équiper de lampes de poche. La lumière rasante, révélant les richesses cachées dans les pierres, dont nous vous livrerons quelques secrets.
Les offices de tourisme le long de la Vézère vous souhaitent une belle découverte. Ce podcast est réalisé par Brive Tourisme en collaboration avec les équipes de Haute-Corrèze, Terre de Corrèze et Vézère-Périgord-Noir dans le cadre du réseau patrimonial des sites templiers et hospitaliers de la vallée de la Vézère. Retrouvez cette série de podcasts sur leur site web. Voix Camille Inès, Aurélien Charpille, Eleven Labs.